Vous écoutez
RMC.
RMC.
Donc Tudor arrive un petit peu comme ça, comme le lait sur le feu.
Il a été adoré dans les clubs par lesquels il est passé, avec sa technique particulière et ses dribbles chaloupés. C'est un footballeur un peu brésilien.
Est-ce que pour toi, à ce moment-là, il est ballon d'orisable, entre guillemets ballon d'orisable, mais il devient ballon d'orisable. Si on parle d'un objectif ballon d'orisable, il devient ballon d'orisable.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue dans Génération After et bonjour à toi qui nous écoute en podcast à Génération After comme tous les soirs de 20h à 22h avec ce soir Jonathan Macardy. Bonsoir Jonathan.
Salut Nico.
Alors Jonathan lyophilisé, l'homme qui pèse 45 kilos désormais, à deux jours du main event. C'est ça?
Non, c'est pas le main event.
Jeudi soir ton combat.
Jeudi soir.
C'est important.
Jeudi soir.
C'est un cadeau, il paraît.
Oui, 8 fois champion de France.
Attendez là, toi, ça y est.
Non, lui, il est 8 fois champion.
Oui, mais t'en es là à affronter un mec qui est 8 fois champion de France.
Écoute, c'est le moment de prouver, non?
Je pense qu'on va essayer de faire un petit live jeudi soir.
Ah,
on va suivre ça en direct. Hein. C'est à quelle heure,
20h30? 20h46, dans le running order.
On sera en direct pour ton combat.
Avec
soir.
Le maillot de l'after, je rentre.
Ah bon?
Évidemment, avec tous mes sponsors derrière, chose que ça t'a bien fait marrer.
Ouais,
bien sûr.
Kevin Diaz est dans la place ce soir. Salut Kevin.
Salut à tous.
Et Sofiane Zouaoui de Winamax FC. Salut Sofiane.
Salut Nico. Salut Kev. Salut Joe.
Heureux de te retrouver.
Bah, moi aussi. Très très plaisir à chaque fois. Ça me fait très plaisir à chaque fois d'être là.
Et oui, t'appelles Joe maintenant que son patron est américain.
C'est vrai,
ouais.
Non, c'est vrai, je me suis américanisé sur les derniers mois. J'essaye de me faire. S'il y a un poste à gratter d'ailleurs, John. Je suis disponible.
T'as voté pour ou contre toi alors?
Non, moi j'ai rien voté du tout, on me l'a imposé.
T'aurais voté qui?
Hein? Pour. C'est-à-dire?
Bah pour ou contre l'éviction de Jean-Mi.
Ah bah moi j'avais fait un avis ici, j'ai dit qu'il fallait qu'il parte.
Ah voilà, il est vraiment en train de chercher un taf à l'Olympique Lyonnais quoi.
Tout à fait, on repart à zéro.
Au programme de Génération After ce soir, Karim Benzema a une offre saoudienne sur la table pour la saison prochaine. Il n'y est pas insensible, est-ce le bon moment pour lui de quitter le football européen? Kevin, tu veux revenir sur l'hémorragie qui va toucher Toulouse et qui touche déjà Toulouse. Pour toi, c'est la validation positive de la politique d'attaque du TFC. T'es pas d'accord avec ce qu'a dit Daniel hier dans l'after. On en reparlera. 20h45, notre invité, le capitaine du Stade Brestois, ami d'RMC, ami du Super Moscato Show, hein, Bredan Chardonnay, sera avec nous après un brillant maintien en Ligue 1. 21h, Franck Haise qui sème le doute sur son avenir à Lens. À quoi joue-t-il? Et quand il son image, on écoutera le directeur général Arnaud Pouille, hein, que Jean Baumel vient de rencontrer. Avis de Sofiane à 21h15, Alexandre Lacazette est le mal-aimé du football français.
On va essayer de faire chialer un petit peu les auditeurs.
Et Jonathan est inquiet pour le foot français, justement. Incertitude chez les entraîneurs de nos locomotives. Marseille, Paris, Monaco, Lyon. Peut-être. Voilà le programme de Génération After et à 22h, comme tous les soirs. Gilbert Brébois. Salut Gilbert.
Salut les gars. Moi, je suis pour le live jeudi, là. De.
Jonathan. Arrêtez de mettre la pression.
C'est sur Twitch
ça.
Le combat?
Bien oui, sûr. Oui, c'est en direct sur Twitch.
Sur la chaîne RMC Sport.
Ouais. Plus, apparemment, il y a Laurent Salvedon dans la salle. Il y a des gens. C'est beaucoup déjà, là. Beaucoup, non.
Ça vaut donc le directeur de la rédaction.
Donc là, si tu gagnes, t'es champion de France.
Mais je suis déjà gagné des. Non. J'ai gagné un super fight contre le champion de France.
D'accord, un super fight. Hein,
ouais, c'est comme ça qu'on dit, ouais. Et ouais. C'est un combat éliminatoire pour la ceinture des moins de 66 kilos de l'organisation.
Voilà. Magnifique.
Prize money?
Ça se dit pas. Mais je reverse tout.
Quand
je dis
pas, c'est que c'est 200 euros le prize money.
Non, c'est un peu plus, mais reverse tout à mon club.
Magnifique. On va donner ça à l'after, peut-être, hein.
Ben non, c'est pour les petits jeunes du club qui n'ont pas d'argent pour faire les compètes.
Pour les petits jeunes de Génération After aussi.
Je pense que Sofiane est riche et Kevin est un mania de l'immobilier maintenant. Donc
ah
c'est bon,
bon.
Kevin, oui, mais Sofiane, il a des prix bêtes.
Ouais. Ouais, c'est du faux argent, mon pote. Hein.
Oh, tu sais, maintenant, avec les bitcoins, c'est tout est du faux argent.
Bon, alors, nous aussi, on aura des super fights avec Laurent Gautreau et Daniel Riolo tout à l'heure à 22h. On donnera notre avis sur l'avenir de Karim Benzema. On parlera des futurs coachs de Paris et de Marseille avec quelques analyses afteriennes bien pensées, avec quelques petites infos. Vous allez voir, c'est intéressant. Et puis un petit mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Turin pour la Juve, à Munich pour le Bayern, avec l'Assemblée Générale du Bayern. Paulo Breitner et Johan Crochet seront là. Avant un gros dossier ce soir que Jonathan va adorer, mais vous aussi qui nous écoutez, parce que je sais que vous aimez ça.
André-Pierre Gignac?
Non, elle est traître dans le foot.
Ah.
Toi, je sais que t'aimes les traîtres. Hein.
Non,
lui, il aime les garces.
Oui, bon. Excuse-moi.
Traître envers les arbitres, traître envers les autres, oui. Mm. C'est pareil, allez.
On te connaît.
Je l'accepte.
Mais en même temps, il y a les trades qu'on aime bien, puis il y en a qu'on déteste. Donc on va s'amuser comme ça à faire chacun notre petite liste. Voilà, c'est à la une de la revue de l'After. Et vous allez voir que c'est passionnant. Je sais pas si à Lyon, il y a des traîtres en particulier, Sophie.
Il a failli, par exemple, Steve Malbrand. Il est allé à Saint-Etienne, il a fait le tour du proprio, il s'est dit non, finalement.
Ça a duré combien de temps déjà?
Ça, c'est Anthony Mounier.
Non, mais Malbrand l'a fait aussi, ouais.
Mais combien de temps ça a duré?
Franchement, il a même pas.
Trois semaines.
Il a juste posé la. Non, même moins, je pense. Il a juste posé avec le maillot et puis
donc, traître, c'est le mec qui part à Saint-Etienne. Mais celui qui vient de Saint-Etienne, non, c'est pas un traître, lui.
Bafé Gomis,
il y a eu des moments compliqués dans son acceptation à l'OL, hein, Gilbert. Après, traître dans concept foot.
Valbuena.
Valbuena pour vous?
Ah, pour nous, c'est un traître, mais évidemment, la potence, etc.
Oui, pourquoi pas. Oui.
Karim Reki qui le découpe dans les 10 premières minutes, là.
Bon, enfin voilà, ce sera tout à l'heure, à partir de 22h.
Ah, tout à l'heure, Gilbert, vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live pour vos messages, vos questions sur Twitter et puis l'application RMC Sport, RMC Direct Studio pour envoyer vos commentaires. Également, c'est parti pour 2 heures de Génération After. D'abord, le tennis, c'est Roland Garros. Je sais que Jonathan, tu es sensible à la cause des Français sur terre battue.
Bien sûr.
Nous allons trouver Anthony Reich, notre envoyé spécial. Salut Anthony.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Eh bien français, Richard Gasquet.
Plusieurs,
sur le court, ouais. Plusieurs même actuellement.
Ouais, tout à fait. Richard Gasquet qui est dos au mur là sur le court Suzanne Lenglen face à son compatriote Arthur Hinderknecht. Arthur Hinderknecht qui mène 2-7-1 et 5 jeux à 1 dans la quatrième manche. 30-15 sur le service d'Arthur Hinderknecht qui est à 2 points du match. Et aussi sur le court 7, il y a une belle bataille entre Quentin Alice et Guido Pelia, toujours un client sur terre battue. Et Quentin Alice mène 2-7-1, 4-4 dans la quatrième manche. Mais c'est vrai qu'on sent que Richard Gasquet, c'est compliqué pour le Biterrois là, physiquement notamment. Il peine face à la puissance de frappe d'Arthur Hinderknecht, qui n'est pas pourtant un spécialiste de terre battue, mais là il essaye avec l'orgueil. Il était mené 5-0, il a sauvé déjà un peu la cause Fanny sur cette quatrième manche, et là il a une balle de débreak pour revenir à 5 jeux à 2 dans ce quatrième set.
Tout à l'heure, Anthony, Karim Benzema, donc ancien Lyonnais bien sûr, les médias espagnols qui affirment aujourd'hui que le Français a une offre saoudienne sur la table. Le quotidien AS évoque un montant de 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour 2 ans de contrat, plus un rôle lucratif d'ambassadeur de la candidature saoudienne pour le Mondial 2030, sur le modèle de ce qui est proposé à Léo Messi. Je précise que tout ça, à toute fin utile, est net d'impôts. Hein. Quand tu vas en Arabie Saoudite, tu ne paies pas d'impôts. Voilà, tout va bien. Dans la poche. On peut vous confirmer qu'il a été sollicité par les patrons du foot saoudien, mais il n'a rien décidé, même s'il est loin d'être insensible à l'approche saoudienne. Hein. Alors, on lui dit, très simple, on lui dit, tu pourras choisir le club que tu veux.
Ah, c'est incroyable.
Regarde le classement, tout ça. Ouais, tu choisis.
Ouais, c'est cool.
C'est cadeau. Benzema, je rappelle, est en fin de contrat au Real. Il a une clause ballon d'or qui reconduit automatiquement son contrat d'une saison. Il ne l'a toujours pas validé. Il est en pleine hésitation. Comprendriez-vous qu'il choisisse à 35 ans, après 14 saisons au Real, de prendre le large façon Cristiano Ronaldo? Vous nous appelez en 32-16 pour en débattre. C'est parti, messieurs. Qui veut commencer là-dessus? Kevin, est-ce que tu serais choqué d'apprendre que Benzema, là, à 35 ans, décide de rejoindre l'Arabie Saoudite?
Moi, je vais te dire, moi, je suis choqué de rien aujourd'hui dans le football moderne. On parlait tout à l'heure avec Gilbert des traîtres. Moi aujourd'hui.
Alors triste, hein? Peut-être.
Moi, non, je serais même pas triste. Je serais même pas triste parce que je trouve que Karim Benzema, il a fait une carrière exceptionnelle. Il est dans le plus grand club du monde. Il a tout gagné en club, en tout cas. Il est maintenant sur sa fin de carrière. Et il arrive dans sa 36e année, donc je ne lui en voudrais pas, et de toute façon je n'ai pas à lui en vouloir, mais je ne lui en voudrais pas du tout d'aller cacher ou d'aller prendre de l'argent en Arabie Saoudite, parce que aujourd'hui le Real et ses exigences, je trouve quand même que le Real, malgré qu'ils aient reconduit notamment Luka Modric pour l'an prochain, ça reste une forme de reconstruction avec Jude Bellingham qui va arriver, avec peut-être un attaquant qui va devoir très rapidement remplacer Karim Benzema. Donc moi je trouve que s'il a envie d'y aller, si l'offre est vraiment très lucrative, qu'il y aille, parce que il lui reste encore peut-être aller 1 ou 2 ans de haut niveau, mais s'il préfère les jouer, parce que c'est pas un joueur qui a gagné des milliards non plus par rapport à Messi,
ça Ronaldo. N'a jamais été le plus gros salaire
par rapport à sa carrière. Voilà.
Par rapport à sa carrière, si il va 2 ans dans un club, dans un plus petit championnat clairement, mais où la monnaie est très intéressante, moi je le reprocherai pas et je trouverai ça en entendable.
Est-il trop tôt pour Karim Benzema de quitter l'Europe hein, et de partir vers les horizons exotiques? Je rappelle ses stats cette saison. Hein. On dit oui, la saison est moins bonne que la précédente, qui était absolument extraordinaire. Il a quand même mis 22 buts cette saison en 33 matchs joués. Mm. Il en a banqué beaucoup également.
Oui, c'est parce qu'il y a eu pas mal de matchs où il est blessé, parce qu'il a eu pas mal de problèmes physiques. Et ça doit aussi rentrer dans sa réflexion, à mon avis. Moi, je vais aller même plus loin que Kevin. Et ça m'embête, en fait, de ne plus le voir sur les terrains européens. Mais moi, je trouverais totalement dingue qu'il n'y aille pas. Par rapport à l'offre financière qui est j'allais dire indécente, mais qu'est-ce qui est indécent dans le foot aujourd'hui? Mais je trouve que c'est une offre financière pour moi qui ne se refuse pas. En plus, je me dis aussi que est-ce que c'est pas le meilleur moment? Alors, peut-être qu'on aura le débat pour le Real Madrid après, parce que pour moi, c'est le pire moment pour le vendre. Mais du côté de Karim Benzema, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour partir? Il sort d'une saison où il a atteint son objectif individuel qui est le Ballon d'Or, qui récompense toute sa carrière. En termes d'accomplissement, c'est le joueur le plus titré du Real Madrid. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Évidemment, gagner toujours des trophées, une Ligue des Champions, ça peut être intéressant, mais il a déjà assez mangé. Puis il y a l'accomplissement qui lui manque, par exemple, aller chercher le nombre de buts de Cristiano Ronaldo, mais il a 100 buts. Donc tu vois, même à ce niveau-là, si tu vas chercher dans les petits détails d'accomplissement individuel, je pense qu'il a fini le game, si je peux me permettre de parler comme ça. Donc rien d'un point de vue juste personnel, sans même mettre dans la balance l'oseille qui est très important dans ce cas-là, puisque c'est une offre quand même avant tout financière, je me dis que pour lui, c'est peut-être le moment d'y aller, tu vois. Donc, même si ça m'embête,
Tu ne dis pas que, par exemple, c'est le débat qu'on avait pour Messi également, s'il était amené à rejoindre l'Arabie Saoudite, un petit tour à Lyon. Symboliquement. Ce serait pas magnifique, absolument superbe. Je sais que t'es pas naïf, hein, Sofiane.
Oui,
hein.
J'adore les fleurs, j'aime beaucoup aussi le petit bruit de la flûte, mon ami Nico, mais je crois que j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que, pour moi, c'est un joueur qui, il l'a dit de manière très claire, qu'il souhaitait pas revenir à l'Olympique Lyonnais, en tout cas, qu'il finirait au Real Madrid. Donc, ce qui peut le faire partir du Real Madrid, c'est soit une fin de carrière au Real, ce qui aurait été une possibilité, soit une offre financière comme celle de l'Arabie Saoudite. Et pour moi, c'est difficilement. Si c'est dans ce qu'on entend, je sais pas si t'as donné les chiffres tout à l'heure de manière, t'as donné oui les droits, il avait aussi 100% des droits sur sa carrière. Pour moi, c'est impossible.
100%
de
droits d'image.
Voilà, droits d'image, c'est impossible de refuser.
C'est évidemment une offre qu'on peut pas refuser financièrement parlant. Après, je pense que Benzema peut et se doit de la refuser. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est que je pense que contrairement à ce qu'on pouvait penser après les polémiques, après l'affaire de la sextape, par rapport à la personne, l'homme qu'il était lorsqu'il quitte l'Olympique Lyonnais. Je pense que Benzema, c'est devenu une figure qui est extrêmement respectée, qui a été anoblie par les amateurs de foot. Et je pense qu'une fin de carrière en blanc au Real Madrid, un petit peu à la manière de ce qu'a fait Zinedine Zidane, ça collerait parfaitement avec le storytelling de la carrière de Benzema. C'est-à-dire que c'était l'adjoint de Cristiano qui petit à petit a fait ses preuves et qui a fini au sommet du football mondial avec ce Ballon d'Or. Donc je pense qu'il mérite en termes d'histoire cette fin de carrière. Le deuxième point, c'est que je suis désolé, pour moi, il n'a que 35 ans. Certes, il a une saison qui a été émaillée de blessures, mais il y a eu la Coupe du Monde qui est venue un petit peu au milieu de la saison pour bouleverser tout ça, et je pense qu'il en a encore très largement sous la semelle. Et la troisième des facteurs, c'est simplement que, Non mais je vais radoter, mais maintenant on n'en a plus rien à faire c'est devenu banal de se dire qu'un pays qui découpe des journalistes dans des ambassades puisse se payer les plus grands footballeurs au monde, et puis c'est tout à fait normal que ces joueurs de foot sous couvert de se faire de l'argent puissent accepter d'aller représenter un des pires états en termes de démocratie, en termes de respect des droits de l'homme au monde. Donc je pense que l'argent c'est une chose, les valeurs et le fait de pouvoir se regarder dans la glace c'en est une autre, et par rapport à l'image de Benzema, qui pour moi je trouve qu'il s'est construit une très belle image, je trouverais ça magnifique qu'il refuse cette offre là. Et je le répète, il en a encore sous la semelle. Et t'évoquais un point intéressant, Sofiane. C'était le point du Real Madrid. Eh ben oui, malheureusement, je pense que c'est l'année ou jamais pour le Real de procéder au remplacement du numéro 9. Il y a un joueur qui est en fin de contrat très bientôt, qui va être mis, je pense, sur le marché pour des raisons financières cet été, qui pour moi est le successeur annoncé au poste de numéro 9 au Real Madrid. C'est Harry Kane. Mais rien n'empêche Karim Benzema de faire une pige pour assurer la transition. Et très franchement, de le voir finir sa carrière au Real Madrid, pour moi, c'est absolument mon rêve.
Bon, sachez que le Real aurait déjà acté l'arrivée de l'attaquant de l'Espagnol Barcelone, Rossellou, hein, 34 matchs de Liga, 16 buts en prêt. Ouais. Le Real est prêt à prendre 100% du salaire du joueur, un troisième meilleur buteur de Liga. Évidemment, ce ne serait pas le numéro 9, hein, numéro 1 du Real.
C'est pas Harry Kane.
Ce serait un joueur d'un point.
Mariano Diaz.
Ouais, qui est même plus un joueur d'appoint, Marino Diaz. Ouais. C'est dingue, hein.
Il a une carrière de gardien numéro 2, Marino Diaz.
Il a une carrière à Lyon, surtout.
Mais en plus, il voulait, apparemment, son agent voulait quand même qu'il prolonge, quoi.
Ah ouais.
C'est complètement. Bon, appelez-nous 32-16 pour en débattre, hein. Est-ce que vous comprendriez le départ de Karim Benzema en Arabie Saoudite? On va prolonger dans Génération After. D'abord, le tennis. Il est 20h15, vous écoutez RMC, Richard Gasquet est sur le court face à un compatriote, Anthony Reich.
Ouais, il est toujours en vie, Richard Gasquet. Nico, il est revenu à 5-3 dans ce 4e set, mené par Arthur Rinderknecht. Rinderknecht qui mène 2-1. Il a eu des balles de match, mais il n'a pas réussi à concrétiser. Et la belle réaction d'orgueil de Richard Gasquet qui se met à nouveau à mieux jouer. Et cette fois-ci, pour la deuxième fois de la rencontre, eh bien Arthur Rinderknecht va servir pour le gain de ses premiers tours.
À tout à l'heure, Anthony, on fait une pause, on va dans un instant Génération After avec Sofiane Zouaoui, Kevin Diaz, Jonathan McCarty. On prolonge sur Karim Benzema. Je vous rappelle qu'on aura notre invité à 20h45, Brendan Chardonnay, capitaine du Stade Brestois. Vous pouvez nous appeler hein, dès à présent au 32-16, supporter Brestois. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Comprendriez-vous que Karim Benzema choisisse l'Arabie Saoudite à 35 ans alors qu'il a un an de contrat sur la table au Real Madrid? Encore avec Kevin Diaz, Jonathan McCarty, Sofiane Zouaoui de Winamax FC, on est ensemble jusqu'à 22h sur RMC. C'est Génération After. Dans un instant, Hicham arrive au 32-16. Beaucoup de réactions sur Direct Studio, bien sûr, sur le sujet Karim Benzema. Sylvain qui te rejoint, mon cher Jonathan, bonsoir. Effectivement, cela est difficile pour lui en ce moment. Peut-être vaut-il mieux tenter de toucher quelques 400 millions d'euros dans un pays douteux quant aux droits de l'homme. Plus rien ne m'étonne. Cordialement, il y a Younes qui nous dit bonsoir. Moi, je trouve ça honteux. C'est honteux de proposer un salaire de 400 millions d'euros à un joueur déjà riche. C'est vrai, je vous entends, les gars. En fait, vous dites s'il peut toucher un énorme chèque, cachetonner un Arabie Saoudite, il a raison de le faire. Moi, c'est une logique que j'ai encore du mal à entendre. Peut-être une très vieille école. On parle d'un gars qui est millionnaire, multimillionnaire, qui n'aura pas besoin d'argent ni pour ses enfants, ni pour ses petits-enfants, ni pour personne dans son entourage, sa famille élargie. Et il faut cachetonner. Je suis pas dans le logiciel d'un joueur de foot, hein, type Messi, Ronaldo et Benzema. Et évidemment, je ne dis pas que je refuserai, mais moi, je ne suis pas un footballeur. Évidemment, je prends. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui anime ces gars, en fait?
Mais en fait,
qu'est-ce qui anime ces gars qui vont encore post carrière gagner beaucoup d'argent?
C'est simplement la distorsion de la réalité auquel ces gens font face au quotidien, et ça c'est très difficile de le juger. Tu sais très bien, Kevin va nous l'expliquer mieux que moi, mais que dans
Kevin,
t'as joué en D2, je suis sûr que même en D2 vous compariez les salaires avec des échelles de comparaison.
Si aussi RMC Sport, on peut comparer les salaires, c'est pareil.
Ce qui est marrant, c'est que Nico, quand tu parlais, je voyais qu'au fond tu croyais pas à ce que tu disais.
Ah si.
Non mais dans le sens où... Non,
mais tout le monde dit l'argent appelle l'argent, c'est un dicton, mais... comme ça un peu éculé. Non, ok, mais...
L'argent appelle l'argent.
On n'en a jamais assez, on dit ça aussi.
mais le cas Karim Benzema, et tout à l'heure tu en parlais, c'est le même que pour tous les joueurs. Sofiane parlait du fait qu'il est arrivé à un moment de sa carrière où il a tout gagné. Mais en fait, pour ces joueurs-là, être bien payé, c'est aussi un accomplissement.
Voilà.
C'est-à-dire que à partir du moment où tu gagnes plus que les autres, tu rentres dans une catégorie de joueurs qui... Ouais, mais c'est... je pense que ça existe.
Parce là, tu te bats contre la nature humaine.
Voilà. Tu te bats contre la nature humaine.
C'est une question philosophique.
Et tu vas partir sur peut-être être la star d'un projet, la star d'une ligue,
d'un pays, tout simplement.
D'un pays à l'image de Cristiano Ronaldo et Messi. Il y aura 3 stars, et donc ce sera aussi pour eux une façon de mettre en valeur leur carrière dans un championnat qui ne met plus en valeur leur carrière footballistique.
Mais
Benzema, c'est pas le
cas. Est-ce que tu comprends quel est le raisonnement?
Pour Benzema, ça marche pas.
Mais si, pour Benzema, ça marche aussi, puisque il fera partie de ces joueurs qu'on recrute en leur donnant les pleins pouvoirs. On te recrute et tu choisis ton club.
C'est le rêve de mégalomanie. Après, voilà. Moi, j'en profite pour saluer le contre-exemple parfait. C'est un joueur de 37 ans qui a gagné son 5e titre en étant décisif en finale dans un retournement de situation incroyable avec contre les Chivas. C'est André-Pierre Gignac.
Qui ne gagne pas 20 000 euros brut par mois au Mexique.
Mais il gagne très bien sa vie, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas non plus des sommes folles. On est dans une autre sphère. Je crois qu'il est à 3-4 millions d'euros net par an, ce qui est énorme déjà. Il a accepté de baisser son salaire parce qu'il a 37 ans, évidemment. Mais je pense que André-Pierre Gignac aurait pu aussi céder aux sirènes et aux tentations de destinations plus exotiques de ce genre de pays. Mais évidemment,
ans.
Pas ouais. 400 millions.
Benzema n'est
mais,
pas génial.
Non, mais Sofiane, ouais. Gignac n'a pas gagné les mêmes sommes d'argent que Karim Benzema dans sa carrière. Donc il en a peut-être encore plus besoin.
Là, c'est
tu
pas
vois.
Un arbitrage, et je peux comprendre que le débat il fasse vomir sur un certain point. Mais c'est pas un arbitrage de quelques millions d'euros, Nico. C'est un club qui te donne 400 millions sur 2 saisons. Donc moi, je veux bien rentrer dans une idée de dire que tu as déjà assez gagné, est-ce que c'est bien d'accepter ou pas, etc. Moi je veux bien rentrer dans ce débat là, mais je suis assez fataliste sur cette idée, parce que c'est des sommes trop conséquentes et elle est tellement indécente la somme, que moi je retourne même le sujet dans le sens opposé, c'est de me dire que est-ce que tu peux te permettre de refuser ça. Donc surtout pour un
oui mec, je te réponds, surtout, il peut se le permettre.
Ouais,
bah,
je ne suis pas certain, je te pose la question, Sofiane.
J'ai besoin d'argent.
Sofiane, mets-toi à sa place. Moi, je te pose une question. Ouais. Est-ce que tu accepterais, si je suis, mettons, allez, je suis Mohamed Ben Salman, tu sais ce que j'ai fait, à l'affaire Khashoggi, etc. Tu sais que je découpe, contrairement à toute convention internationale, des journalistes dans des ambassades en Turquie, etc.
Un journaliste, c'est Jamal Khashoggi.
Est-ce que tu accepterais que je te donne de l'argent contre ton image?
Bah après, je ne sais pas, parce que je suis pas dans cette situation-là.
Mais ton échelle de valeur, elle te gênerait pas?
Mais Jonathan, peut-être, certainement. Mais est-ce que lui fait ce lien? C'est ça aussi la question. Est-ce que lui se dit pas simplement, je vais aller jouer au football dans un pays comme l'Arabie Saoudite, on me donne tant d'argent, je vais représenter une ligue. Dans ce cas-là, tu vois, est-ce que vraiment tu penses qu'il fait ce lien géopolitique? Je n'en suis pas certain. Est-ce qu'il devrait le faire, peut-être?
Non, mais de toute façon, je pense que c'est impossible de se mettre à la place de ces joueurs-là, parce que là, on parle de Karim Benzema, mais si on dévie un peu sur Cristiano Ronaldo, Ronaldo, c'est 100 fois peut-être la fortune de Karim Benzema. Il a quand même été en Arabie Saoudite.
Oui, mais c'est aussi 100 fois l'ego de Benzema, certainement.
Ouais. Oui, mais après, pour son ego, tu pourrais considérer que aller en Arabie Saoudite, c'est pas bien.
Voilà.
Tu vois,
que rester au Real. Donc, c'est-à-dire
l'argent a une telle puissance que moi, je peux pas me permettre de juger des mecs qui refusent ou acceptent ce type d'offre. Je te dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord.
Je m'interroge sur leur logiciel, leur procédé intellectuel. Je pense que comment ils réagissent.
Nico, mais là où tu t'es trompé tout à l'heure quand tu as dit, c'est que tu as dit, moi, j'accepterais. Donc, en fait, ils sont juste comme nous. Ils sont juste comme nous à une autre échelle. Mais s'ils peuvent accepter.
Non, parce que moi, j'ai pas 80 millions d'euros sur mon livret A.
Toi, on te proposerait pas.
Il y a un plafond,
c'est plafonné, c'est 48 000 euros de plafond.
Ouais, mais toi, Nico, on te proposerait pas 400 millions. Bah, on te proposerait 400 fois plus que ce que tu gagnes maintenant.
Je ne sais pas si j'accepte.
Mais si, tu l'accepterais.
Eh ben, je ne sais pas.
Regarde, il a refusé France Culture.
Ouais. Voilà. Et Inter. Et Info.
Juste Info.
Beaucoup plus d'argent.
Il y a The Athletic qui sort l'info juste à l'instant. Il a pris sa décision. Benzema, il va la donner dans pas longtemps. Donc là, pour lui, c'est
décidé. Ah, c'est une info, on sait toujours pas.
Non, mais je trouve qu'il y a une info dans l'info, c'est que s'il restait, il l'aurait dit. C'est quand même bizarre que le mec dit.
Et ça, on le sait, RMC, ça fait plusieurs semaines qu'il hésite alors qu'il a le contrat sur la table au Real Madrid.
Et il y a un autre truc important, c'est qu'il reste un match de championnat pour le Real Madrid. Il faudrait mieux, peut-être, si tu pars, l'annoncer avant pour dire au revoir.
Pour dire au revoir. J'accueille Hicham au 32-16, supporter de Real. Salut Hicham.
Salut Hicham.
Salut Hicham.
Un petit problème. Bonsoir Hicham, j'aurais dit bonsoir.
Bonsoir, vous m'entendez bien?
Oui, bien sûr. T'accueillir dans Génération After avec Kevin, Jonathan et Sofiane. Alors toi, t'es supporter du Real, donc déjà le cœur qui parle. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit quand il apprend que Benzema n'est pas insensible, loin de là, à l'intérêt saoudien?
Alors, ça pique un peu. Pour moi, il y a trois choses qu'il faut prendre en considération. C'est le projet sportif au Real ou en Arabie Saoudite. C'est la situation économique, vous en avez parlé, et c'est la situation familiale. Je pense, à son âge, à 36 ans, je pense que Karim Benzema, il se pose aussi des questions concernant sa famille. Concernant le sportif, je pense que Karim, il doit juste se poser la question de savoir, est-ce que je suis capable, physiquement, je parle, parce que mentalement, je pense qu'il l'a déjà prouvé, d'accueillir un mec comme Harry Kane, comme a priori, c'est lui qui tient la corde actuellement, est-ce que je suis capable d'accepter cette concurrence-là? Donc, est-ce que physiquement je suis capable d'accepter cette concurrence et d'être au top? Deuxième chose, c'est le salaire, vous en avez parlé. Vous avez parlé de politique, j'entendais là tout ce que vous étiez en train de dire. Est-ce que tu es prêt, je crois que c'est Kevin Diaz qui a posé la question, est-ce que tu es prêt à représenter en gros Mohamed Ben Salman qui a fait des choses atroces à un journaliste en Turquie? Ça n'empêche pas, je suis désolé, mais je vais faire un parallèle politique. Ça n'empêche pas Emmanuel Macron de dealer avec lui. Ça n'empêche pas Sarkozy de faire des voyages politiques et économiques. Ça n'empêche pas toute la délégation d'Hollande. Ils sont partis à 10 ministres pour signer des contrats. Ça n'a empêché.
On s'essuie pas les fesses avec du papier sale.
Non, mais au-delà de ça, c'est pas ça que je suis en train de te dire.
Non, mais t'excuses, ça n'excuse pas.
Non, laisse-le finir.
Ça n'excuse pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que on met tout sur le dos de Karim Benzema. Les gars, c'est pas lui qui a dit « je veux 400 millions ». Ils ont dit « on te propose tant ». Maintenant, il y a une situation aussi. Le mec, il a en 18 mois, il a la situation sportive, je vais laisser la politique de côté parce que ça m'intéresse pas, mais sportivement, en 18 mois avec le Real Madrid, il a gagné tous les trophées possibles. Et son histoire de 13 ans avec le Real, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, en 13 ans avec le Real, il a tout gagné. Tout ce qu'il voulait gagner, il l'a gagné. Maintenant, le mec, il se dit, j'ai 36 ans, il y a deux options. Soit je rempile un an et il y a un risque que j'écorche la statue que je suis devenu au Real Madrid en faisant des moins bonnes performances parce que physiquement, ça va pas mieux et que physiquement, ça va aller de mal en pis.
Je suis d'accord avec toi.
Il dit, à 36 ans, hey, les gars, moi, j'ai tout donné et je vais peut-être pas accepter. Parce que, pareil, les journalistes, les supporters, on est ingrats. On vit dans l'instant présent. On se souvient pas. Cristiano, il en a pris plein à la tête quand il était mauvais avec le Portugal, quand il était mauvais avec. On se souvient jamais de ce qu'ils ont fait avant. Messi, pareil. Le PSG, on l'a fusillé médiatiquement parlant. Je parle. Après, ce qu'il fait sur le terrain, c'est autre chose. Et donc, du coup, peut-être qu'il se dit, hey, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Vas-y, je m'en vais. Et peut-être, il y a une dernière chose. Et après, je termine sur ça. La situation familiale. Vous n'êtes pas censé savoir que Karim Benzema affiche haut et fort sur ses réseaux sociaux qu'il est croyant, qu'il est musulman. Ça reste une terre sainte, l'Arabie Saoudite. Il se dit peut-être que pour l'éducation de mes enfants, 2 ans en Arabie Saoudite, ça peut être un bien. Je ne sais pas, c'est une autre considération. En fait, dans ce dossier-là, il y a plusieurs poches. Et dans ces poches-là, on ne peut pas se mettre à sa place. Oui, c'est indécent d'accepter une telle offre parce qu'il est déjà multimillionnaire. Hey, les gars, ils n'ont pas le même train de vie que nous. Il prend son jet privé 600 fois dans l'année. Son jet privé, ça lui coûte pas 2000 euros.
Faudrait qu'il dose un petit peu quand même, au moins pour nous, les 100 euros par rapport à la planète, pour les enfants du coup.
Les restos que Karim Benzema fait, c'est pas des restos à 35 euros le menu. C'est tout ça qu'il faut voir.
Oui, mais attends, pas non plus.
Attends, des fois,
justifier.
Je connais des bons restos à 35 ans, je te le dis.
Il faut qu'ils maintiennent son niveau dans des restaurants étoilés. Non, pour moi, ça.
Non, mais oui.
Je comprends ce que dit Cham. La fin de l'argument est un peu moins recevable.
Juste, vas-y. Je suis d'accord avec 80% de ce qu'a dit Hicham, notamment sur le début. Après, moi, sur Benzema, il y a un truc entre les deux, une solution entre les deux qui pourrait convenir au Real Madrid et à Benzema. S'il dit avec le Real Madrid, et s'il s'entend pour dire avec le Real Madrid et l'Arabie Saoudite, parce que ça va, je sais pas si on va avoir le temps d'en parler, mais ça va mettre le Real Madrid, s'il part, dans une situation très complexe dans la gestion du mercato d'été. Et quand je dis mercato d'été, c'est celui-là et celui de l'année prochaine. Suivez mon œil, je parle de Mbappé potentiellement l'année prochaine. Donc comment tu vas gérer tout ça? Mais si s'entend avec le Real et l'Arabie Saoudite, il dit je reste encore un an au Real Madrid et je rejoins l'Arabie Saoudite dans les mêmes conditions financières dans un an, je pense que ça peut convenir à tout le monde. Et peut-être que Benzema d'ailleurs, dans cette idée de respect qu'il a déjà prouvé à maintes reprises par rapport au Real Madrid, mais peut-être qu'il pourrait avoir une sortie encore meilleure. Et puis arranger mais tout le monde.
Harry Kane cet été, c'est non, largement
je
faisable.
Je pense, ça me paraît très compliqué de voir une cohabitation entre Harry Kane et Benzema.
Justement,
même pour
ça.
Un an.
Oui, c'est pour ça que je te dis que si Benzema part, il y a le successeur qui est annoncé.
Harry Kane ne jouera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine.
Justement, il est en fin de contrat
dans un an.
Harry Kane, ça bloquerait pour moi à terme l'arrivée de Kylian Mbappé. J'ai du mal à voir Mbappé Kane dans la même équipe en 2024.
Bah si, mais ça dépend.
Ah si, c'est complémentaire
moi,
même.
C'est pas du tout le même poste. Harry Kane a pu jouer avec Ounmoussen qui est un attaquant gauche.
Vinicius, c'est à gauche. Depuis fait quoi
Mbappé ira à droite.
De toute façon,
Kane c'est 80 millions juste
d'accord,
comme ça.
Mais l'équation,
un an de contrat lui reste.
Non mais l'équation Harry Kane pour moi elle n'est pas avec Kylian Mbappé. La seule équation Kylian Mbappé au Real c'est Vinicius. Est-ce que tu veux que Vinicius reste à tête de gondole en partant du côté gauche ou est-ce que tu recrutes Kylian Mbappé et dans ce cas-là tu sais que Vinicius, il faudra peut-être qu'il déménage de l'autre côté. Mais concernant Karim Benzema, moi je pense que sportivement c'est le bon moment. C'est le bon moment parce que
un peu
à l'image de ce qu'avait fait Zidane, c'est-à-dire de partir à ton prime,
d'accord,
à ton apogée, en tout cas un prime qui est très long pour Karim Benzema.
Je sais pas pourquoi il faut partir à son apogée. C'est encore un concept que je ne comprends pas.
Mais en fait, c'est pas la question.
C'est pas grave. On a envie de le voir nous encore en Ligue des Champions.
Tu sais, c'est
fou qu'il parte en état moins bien. Plante 3 buts en Ligue 1.
Nico, t'as bien aimé son état physique cette saison. Moi, à de nombreuses reprises, j'ai mal pour lui. Le mec continuait sur les terrains alors qu'il était blessé constamment. Là, il a encore fini dernier match, il s'est fait écraser le pied. Il a fini, je sais pas dans quel état. On a vu son pied d'ailleurs. Pas de
attention. Il a moins joué avant la Coupe du Monde parce qu'il a décidé aussi.
Ouais, enfin, il était quand même sur. S'il commence la Coupe du Monde dans cet état physique, c'est pas pour faire plaisir à sa gestion par rapport à Real Madrid.
Moi, je l'ai trouvé. Apogée, ça veut juste dire partir sur une belle saison.
Ça, je suis d'accord.
Tu pars sur une belle saison. Tu pars encore une fois en ayant été décisif. Et surtout, tu pars parce que tu as une opportunité exceptionnelle.
Je suis toujours circonspect par le fait de voir que quand, par exemple, Samuel
Samuel Eto'o avait signé à l'Andy Makhachkala.
Ça avait dérangé personne.
Non, si, il y avait eu beaucoup d'émoi, notamment sur le respect des droits de l'homme au Daguestan, etc. Et que là, maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Donc voilà, c'est cool.
C'est pour être génial. On a un message de Direct Studio, Jonathan, qui te répond d'ordre géopolitique. Le Mexique, c'est aussi le pays des cartels où des corps sont découpés.
Oui, mais est-ce que c'est de la politique gouvernementale?
En tout cas, elle est corrompue. Enfin,
elle est corrompue, d'accord. Mais est-ce que c'est le gouvernement qui est derrière les cartels? C'est une question qui est bien plus vaste et plus compliquée.
Mais Jonathan, c'est trop.
Comme la question saoudienne, certainement aussi.
C'est trop compliqué. Vas-y, redonne tout son argent.
Si attends juste, si Benzema redonne tout son argent au Yémen, c'est bien.
Non mais j'entends tout ce que dit Jonathan McCarthy. J'ai l'impression que c'est comme Stéphane Guy dans l'After qui nous parle tout le temps du Qatar, des droits de l'homme et tout ça. Mais les mecs, revenez à ce qu'on est en fait. On est des supporters de foot, on parle de foot.
Ah, c'est
et en
bien.
Fait, vous reliez. Enfin, on relie, on veut oui. relier quand ça nous arrange. C'est quand ça nous arrange.
Hein. Mais la vie et n'est pas manichéenne. La vie, c'est la vie.
Jonathan, je te vise pas toi personnellement.
Non, je sais, Hicham.
En général, dans les médias français, on aime bien tout mélanger. Les sphères publiques, les sphères religieuses, les sphères politiques. À un moment donné,
parce que le foot englobe tout, Hicham.
Oui, il englobe tout, mais nous, on est des supporters de foot. On parle de Karim Benzema et nous.
Toi, tu penses terrain, ballon et effectivement.
Non, mais
tu
peux pas.
Hicham, merci Kevin, c'est terminé.
Juste
bonne soirée à toi, Hicham. Merci d'être venu dans Génération After.
On peut pas dire ou entendre ce que dit Hicham quand il dit. Nous, on parle ballon, mais ces pays-là, quand ils investissent dans le foot, ce n'est pas que pour le ballon.
C'est du sport washing.
On est obligé de parler d'autre chose que de ballon.
Évidemment. Voilà, pause. On arrête là sur le sujet Benzema pour vous dire qu'il y a du basket également ce soir, un match de demi-finale du championnat de France entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL. Arnaud Valadon, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. C'est Wembanyama qui remplit encore Bercy, près de 15 000 personnes attendues parce qu'il y a des problèmes d'organisation. Tout le monde n'est pas encore rentré et beaucoup de spectateurs sont encore sur le parvis de Bercy. C'est le match 2. Boulogne-Levallois a pris le premier match contre l'ASVEL du président Tony Parker. C'est au meilleur des 5 manches et pour l'instant, pas de panier inscrit après 2 minutes de jouer ici entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL.
Allez, pause, on est dans un instant. Vas-y.
On se moque de qui? Boulogne-Levallois maintenant? C'est fusionné? Parce que j'ai fait Boulogne-Levallois en transport en commun, j'ai mis une heure. Je peux te dire qu'il y a une couille là.
Tu sais que le basket français, c'est souvent un club 3 communes.
Hein, ouais.
Parfois.
Bah, une heure
à RTP. Hier Toulon, bref. Ouais. Reste avec nous, la suite de Génération After. Dans un instant, Kevin veut parler du TPC sur RMC. A tout de suite.
C'est jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Jonathan McCarthy et Sofiane Zoui. Alors évidemment, le débat Benzema a enflammé le Direct Studio.
Ah bon?
Bien sûr, on en reparlera. On attend à tout moment l'information qui peut tomber très vite d'ailleurs sur la décision de
la tendance sur les. Sur les réseaux.
Non, mais j'ai pas le temps parce qu'on a pris beaucoup de temps pour en parler. C'est assez partagé quand même.
Oui.
C'est assez partagé.
Ah, quand même.
Beaucoup ont aimé mon avis démagogique.
Ah, également. Très bien.
Naïf même.
Très bien. Il est dans l'air du temps. Ça me laisse encore un peu d'espoir.
Mais je suis de naïf et démago, mais en tout cas, je le pensais sincèrement, les gars. Le tennis rapidement, Anthony Reich, où en est-on? Gasquet, Rinderknecht.
Cette fin de match est folle puisque Arthur Rinderknecht menait 5 jeux à 0. Il a été bousculé, poussé dans le jeu décisif du 4e set. Et Richard Gasquet qui a une réaction d'orgueil incroyable. Et là, attention, parce que là, il y a une marque qui est en train d'être confirmée. C'est bon, ça y est, c'est fait. Sur ce coup droit gagnant d'Arthur Rinderknecht, il s'impose au bout du suspense en 4 manches et sur un jeu décisif assez brûlant face à Richard Gasquet. Il verra le deuxième tour, Arthur Rinderknecht. Et à noter que sur le cours central, Gaël Monfils vient de débuter son tournoi face à Sébastien Baez. Un jeu à 0 pour l'argent.
Merci. Tu vas y aller, toi.
Quoi?
Tu vas y aller, Roland. On va te voir des photos de toi avec des petites lunettes.
Moi, si j'y vais, je paye. Et comme il y a trop de demandes, j'ai pas eu de place.
Voilà. Ouais.
Toulouse va donc perdre 4 joueurs en fin de saison, au moins. Départ acté pour Branko Vandenboomen jusqu'en 2027 à l'Ajax.
Ça t'a fait plaisir, ça.
Bert de Jägerö, Maxime Dupé et Spierings, son prénom?
Stein.
Tous en fin de contrat. Daniel, dans l'after hier, disait que c'était la limite de la politique de la data, propre notamment au Toulouse Football Club. J'ai pas trop compris pourquoi. En tout cas, tu n'es pas d'accord également avec cette position, Kevin. Avis tranché, Kevin Diaz.
Faut quand même rendre à César les travails le gros travail qui a été mis en place.
Vous connaissez pas celui-ci, fait mal quand même.
Oh, c'est fou.
Ça va.
C'est l'hésitation.
Tous, hein.
Non, il se corrige après. Il se corrige à la fin.
Comme souvent. En tout cas, j'ai vu que Sofiane, ça l'avait bien fait rire.
Je la connaissais pas.
Oui, mais pas là, mal. Ça a été. C'est une des plus belles, je pense.
Il s'est exclaffé.
Je suis désolé.
Exactement.
esclaffé.
Ouais. T'aimes bien le vocabulaire un peu soutenu.
J'aime bien que tu te rattrapes après ce jingle notamment.
Allez, esclaffons.
Kevin, Toulouse alors. Pourquoi tu valides?
Bah écoute, moi je valide parce que lorsque j'ai vu tout à l'heure, je discutais avec Najib, notre producteur, et surtout sur le cas, je vais prendre l'exemple du cas Branko van den Bomen. Lorsque j'ai vu que notre ami Branko retournait dans son club formateur par la grande porte, en signant donc un contrat de 4 ans avec l'Ajax Amsterdam, qui est un club en plus en pleine reconstruction, qui a un nouveau manager général, qui vient de se séparer de son CEO en la personne de Van der Sar notamment, j'étais vraiment content pour lui. C'est un joueur qui a débuté avec l'équipe réserve de l'Ajax et puis ensuite qui a un peu vivoté dans cette deuxième division, qui, on l'a vu quand même, a pas mal de talent, mais il a ensuite été recruté donc par Toulouse grâce aux data, grâce à sa qualité notamment de passe et sur coup de pied arrêté. Aujourd'hui, il permet en plus, donc c'est vraiment win-win situation, comme tu aimes les anglicistes, parce que c'est gagnant-gagnant. Il permet à Toulouse de revenir en Ligue 2. Il permet à Toulouse, avec ses coéquipiers bien sûr, de gagner une Coupe de France. Et derrière, certes, il part libre, mais peu importe. Le TFC est gagnant, ils ont remonté en Ligue 1, ils ont eu un joueur qui était quand même très abordable financièrement. Et en plus, ils permettent à ce joueur de revenir dans un grand club, dans le plus grand club néerlandais, son club formateur. Je le voyais tout sourire avec toute sa famille. C'est son rêve qui devient réalité grâce au TFC, grâce à la data. Donc au final, à partir du moment où tu peux proposer un projet en tant que Toulouse Football Club, en mode Van den Bomen, mais Stijn Spierings est sur les tablettes du PSV Eindhoven, je pense que De Jagereux aura également un très bon club, eh bien tu peux faire la différence lorsque tu vas tenter de recruter ces joueurs. On a aussi ce fameux joueur qu'ils ont convaincu, que eux ils pensaient qu'il avait le niveau pour jouer à Toulouse, que ce soit pour jouer au tableau en Ligue 2, voire en Ligue 1. Et donc aujourd'hui, cette politique de la data, certes, elle a fait en sorte que certains joueurs doivent partir libres, mais elle a quand même permis au club et aux joueurs de progresser de façon très intéressante, et ça, je pense, permettra de convaincre les futurs joueurs que tu veux recruter, que ces exemples, ils sont parlants pour tout le monde, ils sont parlants pour les supporters, parce que j'entends certains qui disent, ah oui, mais ces joueurs, ils n'ont pas vraiment fait partie de l'histoire. Mais comment ça? Tu vas me dire que dans 20 ans, on se rappellera pas de Branko van den Bomen?
Qui dit ça?
Non, c'est ce que disait hier, par exemple, dans l'after. Moi, je trouve que ces joueurs, même si certes, ils ne sont pas restés 10 ans, ils sont restés que quelques saisons, mais ils font partie aujourd'hui de l'histoire du club. C'est des joueurs qui ont tout donné pour ce club et le club leur a bien rendu, peut-être pas forcément en salaire, eux, ils ne l'ont pas forcément rendu en transfert, mais c'est deux belles histoires. Et je finirai par dire que, en plus, à partir du moment où tu recrutes ce genre de joueurs qui ont après, bien sûr, l'intelligence de ne pas forcément prolonger puisqu'ils se disent, non, moi, je vais être bon, je vais surtout parier que je vais pouvoir cacher, sur une prime à la signature, sur un nouveau contrat, peut-être ailleurs, mais du moment où tout le monde est heureux, ça va.
C'est pas le cas de tous les joueurs, qui ont prolongé parce que, qui n'ont pas prolongé, pardon. Je pense qu'il y en a pas dans le lot que t'as cité qui, auraient été favorables à une prolongation de contrat. Là où ça bloquait un petit peu, c'était surtout sur les durées de contrat. Eux, ils voulaient un an, enfin il voulait 2 ans, et puis le club proposait seulement 1 an. Moi, je suis en partie d'accord avec toi, Kevin, mais pas totalement, parce que je suis d'accord avec toi que ça leur a permis de monter, donc c'est positif, et que le projet data, avant d'être un projet data, faut mettre en avant un truc, c'est un projet travail. Et ça, juste parce qu'on résume ça à la data, etc. Oui. Mais la data, c'est du boulot. Il y a beaucoup de clubs qui devraient s'en inspirer juste sur la valeur travail, donc c'est positif. Après, là où je suis pas d'accord avec toi, Kevin, c'est que pour moi, quoi qu'il arrive, quand tu perds quand un joueur part libre, c'est un échec pour moi, financier.
Ce que tu dis, ça n'a aucun sens.
Laisse-moi finir. Sur la montée, éventuellement, là, parce qu'on est dans une situation où ils sont montés, donc c'est positif, on est d'accord. Mais sur les prochaines saisons, il faudra forcément que tu aies des reventes, parce que c'est un club, c'est le 17e budget de Ligue 1. Si tu penses vraiment que tu vas t'en sortir simplement en laissant libre tes joueurs et puis en trouvant des bons coups avec ton système de data, moi je dis, il faut faire très attention à un truc. C'est qu'aujourd'hui, ça marche, mais il y a eu des échecs quand même dans
tous les clubs, des échecs,
bien évidemment. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'attention à ne pas trop faire confiance à ce système-là, dans le sens où tu te dis, ah, nous, on n'en a rien à faire parce que les joueurs, c'est pas grave, s'ils partent libres, on a déjà préparé la suite. Mais il faut que tu aies quand même un parachute financier avec ces joueurs-là. C'est-à-dire que au moins, tu les as valorisés, ils t'ont permis de monter, de gagner une Coupe de France qui est extraordinaire. Le projet, il est gagnant, il n'y a pas de problème avec ça. Mais pour te pérenniser, j'allais dire malheureusement, mais il faut de la revente, surtout dans des clubs comme ça. Donc tu ne peux pas me dire, Kevin, juste pour finir, ils sont partis libres, c'est pas grave.
Pour revendre, il fallait prolonger. D'accord.
Exactement.
Pour revendre, il fallait
prolonger. Ou alors revendre un an avant.
Non, mais attends. Voilà. Est-ce que tu vas je te pose une question, ouais. Il va falloir que tu répondes.
Ouais, bah, je suis là pour ça. Je suis payé pour ça.
Est-ce que tu vas prolonger un joueur en lui donnant un salaire qu'il ne mérite pas juste pour pouvoir espérer le revendre?
Bah écoute, si t'as des détails par rapport à cette question-là, donne-les-moi. Bah, parce que je suis pas sûr.
Je vais te donner un exemple. Ouais. Je vais te donner un exemple. Est-ce que tu penses que Stijn Spierings mérite un des plus gros salaires de Ligue 1, par exemple, de Toulouse, par
de
exemple,
son club,
de son club.
Pourquoi pas? Si tu considères qu'il y a beaucoup de clubs qui sont dessus, et qui
mais c'est là où tu te trompes. Stijn Spierings ou Branko van den Bomen, ils vont signer peut-être, enfin un a signé à l'Ajax et l'autre va peut-être signé au PSV Eindhoven. Ouais. Le PSV Eindhoven, jamais de la vie, tu entends, jamais de la vie, ils ne l'achètent. Jamais, en fait. Jamais ils ne mettront un euro sur Stijn Spierings. Par contre,
mais c'est le pas prendre le problème de Toulouse, on n'a rien à faire.
Je te parle d'un profil de club, mais c'est pareil. Stijn Spierings, il va pas signer en première ligue dans un top club. Il va signer dans un club qui joue peut-être l'Europa League, un bon club suisse, un bon club hollandais, un bon club belge.
C'est pas le sujet aujourd'hui.
Mais si, c'est exactement ça le sujet. C'est-à-dire de quel joueur tu es calibré. Quand tu recrutes un joueur de Ligue 2, à l'étranger, par exemple, comme c'est souvent le profil. Là, ils sont sur, on entend, des deux Espagnols, peut-être au Portugal. C'est des joueurs que tu recrutes parce que tu as les moyens de les attirer.
C'est pas le sujet.
C'est pas le sujet
dans le sens où je suis d'accord avec ton avis. Le fait que Van den Boomen signe à l'Ajax, ça veut dire, ça valide le projet du TFC en termes d'être capable de cibler, de repérer des joueurs, de les valoriser. Et la preuve, ils atterrissent dans des autres clubs. J'ajoute une chose, c'est même un plus pour l'attractivité du TFC qui vont approcher certains joueurs. Regardez, Van den Boomen, on l'a pris là et maintenant il termine à l'Ajax dans le club de CRF. Mais t'es quand même obligé, si tu veux que ton projet soit viable, de faire des petites plus-values à droite à gauche pour que le projet puisse monter en gamme. Après, ça dépend quel projet de Redbird. Est-ce que le projet de Redbird, c'est de rester un club qui joue entre la 10e et la 13e place de Ligue 1, et ça, dans ce cas-là, effectivement, tu peux continuer sur ce rythme-là, ou est-ce que le projet, c'est de monter en gamme, et dans ce cas-là, va falloir faire un petit peu des plus-values?
Mais je rappelle également que c'est une
question de gestion de contrat, ça n'a rien à voir avec la data. C'est là où j'ai pas compris l'avis de Daniel.
Pour l'instant, l'avenir de Toulouse en Ligue Europa n'est pas officiellement assuré. Je rappelle que c'est le règlement 5 de l'UEFA qui stipule que deux équipes d'un même propriétaire ne peuvent pas jouer une Coupe d'Europe lors d'une même saison. C'est le cas avec le Milan, propriété de Redbird Capital Partners et du TFC. Écoutez, Toulousain, on peut vous dire qu'on est serein, qu'on envoie tous les documents à l'UEFA, à la Fédération française également.
Ils jouent pas la même coupe, mais
Infantino a dit qu'ils allaient trouver une solution. Il y a une volonté des institutions.
C'est Séverine qui a dit.
Et pour finir, on en reparlera peut-être une autre fois, mais il y a un truc à faire très attention quand tu es dans la gestion d'un club, c'est de ne pas prolonger un joueur juste pour espérer de le vendre. Si tu le prolonges, c'est parce que tu penses vraiment qu'il va faire partie de ton projet.
Ça dépend de la durée du contrat, Kev.
Dans un instant, notre invité Brendan Chardonnay sera avec nous, capitaine du Stade Brestois. D'abord le basket, rapidement, Arnaud Valadon, demi-finale, match 2 entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL.
Les 30 dernières secondes de ce premier quart-temps et l'ASVEL est dépassé, déjà un écart en faveur de Wembanyama, les Mets, 21-12. Wemby qui nous a gratifié de deux dunks qui ont fait lever Bercy, et c'est 15 000 spectateurs.
À tout à l'heure, Arnaud. Pause et on vient dans un instant avec notre invité dans Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Stéphane Zouaoui, avec Jonathan McCarty et Kevin Diaz. Merci d'écouter Génération After. Et j'accueille tout de suite notre invité, capitaine du Stade Brestois, défenseur central, ami d'RMC, on peut le dire comme ça. Brendan Chardonnay est avec nous. Salut Brendan.
Salut tout le monde.
Salut, très heureux de t'accueillir. Merci d'avoir préféré pour une fois au Super Moscato Show Génération After. On est très heureux d'avoir tes faveurs, cher Brendan. D'ailleurs, Vas-y.
Il faut donner à tout le monde.
Voilà, t'es généreux, ça, comme mec, toi.
Un mec généreux. T'as conscience quand même de ce que tu dois au Moscato Show, pas, Brendan?
Oui. Et Eric Dimeco me le dit souvent que je lui dois une carrière. Je lui dois une carrière avec toute la pub que me fait RMC. Mais c'est sympa. Hein.
Bon, on va faire la pub du joueur et ton club également maintenant avec toi. Encore un maintien en Ligue 1, Brendan. Cinquième saison à venir d'affilée pour le Stade Brestois. T'as le sentiment que c'est toujours un exploit quand vous maintenez en Ligue 1?
Alors un exploit peut-être pas, mais c'est il faut jamais banaliser un maintien quand on est Brest. On sait que l'objectif en début de saison, forcément c'est le maintien. Après on l'a vu l'année dernière où on s'était maintenu un peu plus facilement. Donc là à partir de ce moment-là, on peut se projeter. Mais tant que le maintien n'est pas acquis à Brest, voilà, il faut parler de maintien. Et c'est vrai que ça va être la cinquième année d'affilée. Je crois que c'est plus arrivé depuis 1980 au club. Donc c'est quand même quelque chose de fort. Hein.
Et battre Marseille au Vélodrome, est-ce que c'est encore un exploit?
Allez.
Allez, je peux pas. Un exploit, je sais pas, parce qu'on est, des joueurs de foot comme eux aussi.
Non, mais je connais ton secret, Brendan. Je connais ton secret quand tu viens au Vélodrome, c'est que ton agent, il doit te monter le bourrichon, et t'arrives à chaque fois et t'es déter, parce que son agent, vous savez qui c'est son agent?
Je peux le dire.
C'est Pierre Ducrot. C'est toujours Pierre, ton agent.
Eh oui.
Ah là, donc je pense que Pierre, il te fait un travail mental. Sur les 15 jours d'avant, il te fait un travail mental. Tout le monde connaît la photo de Pierre qui fait le tête contre tête contre Ravanelli. Donc voilà, c'est moi, franchement, pour Brendan, je te le dis, tu m'emmerdes quand tu viens au Vélodrome. Faut que t'arrêtes, quoi.
Je sais, et j'aime ça.
Il aime emmerder Jonathan McCarthy. Magnifique. Bon, Eric Roy est arrivé le 3 janvier, Brendan. Nous ici, on n'était pas convaincus, effectivement, quand il est arrivé à Brest, hein, après des années sans entraîner une équipe de Ligue 1. Quand il arrive, vous êtes 17e et relégable. Vous êtes aujourd'hui 14e grâce à un bilan de 31 points en 20 matchs. 10e meilleur bilan de l'année civile en 2023.
C'est pas mal du tout.
Une défaite sur les 10 derniers matchs.
Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement, Eric Roy? Parce que je te le dis, nous on était un peu sceptiques. Hein.
Oui. Alors, je sais qu'il y a eu pas mal de critiques et beaucoup de gens sceptiques. Après, c'est normal parce que ça faisait une dizaine d'années qu'il avait plus coaché. Maintenant, il a apporté toute son expérience, toute sa sérénité. C'est quelqu'un de calme et qui aime parler, qui aime discuter. Et puis surtout aussi, je pense qu'il faut le souligner, c'est que nous les joueurs, on s'est mis réellement à notre niveau. On n'était pas à notre niveau durant les 6 premiers mois, et on a vu que quand tout le monde tourne à plein régime, on a des bons joueurs et on devient une belle équipe.
Sofiane.
Salut Brendan. Bon, je sais que parler des choses positives, c'est très bien, mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand même les choses négatives et ce début de saison. Moi, j'aimerais savoir comment tu t'es relevé et le groupe avec toi de cette défaite qui était lunaire face à Montpellier, le 7-0 très vite dans la saison. T'es sur le terrain, t'es capitaine. Évidemment, je dis pas du tout que c'est de ta faute, hein. Mais t'es important dans cette équipe. Mais comment vous êtes relevé de cette défaite terrible du début de saison?
Oui, ça a été compliqué. Alors ce match-là a fait mal aux têtes, bien sûr, mais c'est surtout l'enchaînement de matchs ensuite aussi. On joue le mercredi après contre Rennes, on perd 3-1 parce qu'on prend deux buts à la 88e et à la 90e. On reçoit Strasbourg derrière. On est à 11 contre 10 et on arrive à faire que match nul, et on doit même perdre le match si Bizot ne fait pas un arrêt exceptionnel à la fin. Donc c'est surtout l'enchaînement de matchs là qui a été très compliqué.
Benoît Chardonnay est avec nous dans l'after, capitaine du Stade Brestois. Kevin.
Il y a d'autres équipes avant nous qui ont pris.
Ah, vas-y Brendan.
Oui.
Ça a coupé un petit peu. Vas-y.
Ça a coupé. Moi, j'y vais sinon.
Vas-y, Kevin.
Moi, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous donner, un truc tactique qu'a changé le coach Eric Roy depuis qu'il est, enfin, à partir du moment où il a pris en charge l'équipe?
On l'a perdu?
Ah, on va faire une pause. On va faire une pause.
Un truc tactique, je pense.
Vas-y, Brendan, ouais. On te laisse la parole maintenant.
Ah bah elle est pas.
Oui, un truc tactique, je pense que le positionnement de Jérémy Ledouaron sur le côté gauche de l'attaque, mais qui rentre beaucoup dans l'axe, et ça fait qu'on joue presque à deux attaquants au final avec Steve Mounier et Jérémy. Donc ça a apporté beaucoup de monde dans la surface, beaucoup de taille, et on voit que les deux ont mis beaucoup de buts dans cette deuxième partie de saison.
Allez, on va faire une pause, on va essayer d'améliorer la liaison avec Brendan Chardonnay, notre invité dans Génération After, et avec Kevin Diaz, Jonathan Macardy et Sofiane Zouaoui. Le basket, demi-finale, championnat de France, match 2 entre Boulogne-Levallois et l'ASVEL, Arnaud Valadon.
Et du l'ASVEL qui a beaucoup de mal, déjà mené 1-0 dans cette série au meilleur des 5 matchs. Il reste 7 minutes et 28 secondes à jouer dans le deuxième quart-temps. 27-16 pour les Mets, cet avantage donc de 11 points. Wembanyama, 4 points, 2 sur 8, un petit peu de déchet au tir pour Victor Wembanyama, mais heureusement les Mets, c'est pas que lui, c'est pour ça que ils sont en demi-finale, les hommes de Vincent Collet. Pour l'instant, ils sont bien partis dans ce match 2, 27-16 face à l'ASVEL.
Reste avec nous Génération After, la suite dans un instant avec notre invité Brendan Chardonnay, quelques questions encore à lui poser, et puis on évoquera également le cas Alexandre Lacazette. Reste avec nous, on vient dans quelques secondes. Merci d'écouter RMC.